منك يا مسعود يا سقم لسعود سقم لي ساعدي يا وانا ما دنا 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 دنا
Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur le 102.3 FM. Nous sommes le samedi. On est quelle date, Lamine?
On est le 16. Ouais, là.
Nous sommes le samedi.
On est deux jours avant le match de l'Algérie contre l'Angola.
Et deux jours avant le prochain.
Deux jours après, deux jours avant. C'est la référence.
C'est la référence. Ouais. Je ne sais pas si tu as, si tu as remarqué quelque chose. Tout comme en novembre contre l'Égypte.
Le 14 et le 18.
Le 14 et le 18.
On va jouer. Et même l'Angleterre, c'est le 18 juin.
Ce sera le 18 juin, oui. Ça a bien commencé à Omdurman, j'espère que ça va continuer après demain. Donc nous sommes le lundi 16 janvier, nous sommes ensemble jusqu'à minuit, comme d'habitude, vous écoutez une émission
mixte,
algéro-algérienne. Montréal là-bas, c'est Taxi Maghreb. Ont pris pour habitude d'unir leurs efforts pour vous faire des émissions comme ça ensemble à chaque fois qu'il y a des événements importants comme qu'ils soient sportifs ou politiques, quand il y a des élections en Algérie.
Sociologique.
Sociologique de temps en temps. Donc, c'est notre deuxième émission ensemble. Elle sera bien sûr consacrée à la Coupe d'Afrique de football qui se déroule en Angola. Et avant de parler justement de cette Coupe d'Afrique et avant de parler de football, il va falloir bien sûr faire un arrêt sur image pour parler de ces terribles événements que vit le peuple haïtien depuis 5 jours aujourd'hui. Ce terrible tremblement de terre qui a pratiquement rasé une grande partie de ce pays. Haïti est connu comme étant un pays pauvre, parmi les plus pauvres au monde, un pays que je dirais exsangue, où il n'y a absolument rien, un pays aux proies, en proie à la corruption de ses autorités depuis de très longues années. Le peuple souffre le martyre en temps normal. Alors qu'est-ce que ça doit être maintenant depuis 5 jours maintenant, suite à ce terrible tremblement de terre d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter. Nous sommes bien sûr de tout cœur avec le peuple haïtien. Nous n'arrêtons pas d'y penser. Regardez toutes ces images qui passent sur toutes les chaînes canadiennes. En direct, toutes les chaînes ont des envoyés spéciaux là-bas, certains en ont envoyé 2 ou 3. Rien qu'à voir ça et voir toutes les souffrances de ce peuple, c'est pas facile à supporter, Lamine.
Et ça, on présente nos condoléances à nos amis haïtiens. La communauté haïtienne est très importante ici. Donc, il y a sûrement des membres de leur famille qui ont été touchés. On leur présente au nom de la communauté algérienne aussi nos condoléances à cette occasion. Et aussi, et ça démontre la fragilité de beaucoup de pays pour faire face à des catastrophes naturelles. Quand on voit les dépenses en armement des voisins de Haïti, les États-Unis et même le Canada,
D'autres pays, quelques années.
C'est incroyable que encore des États font la course à l'armement quand il y a des peuples qui n'arrivent pas juste à manger, tout simplement.
Absolument, et des peuples qui souffrent, des peuples où il n'y a aucune infrastructure. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe ces jours-ci à Haïti. Même l'aide internationale a du mal à s'installer.
Parce que pour pouvoir recevoir l'aide, il faut avoir de l'infrastructure.
Exactement. Ouais. Ils ont un tout petit aéroport où il n'y a pas de courant. Déjà, en temps normal, on éteint toutes les lumières au niveau de l'aéroport après un atterrissage ou après un décollage. On éteint. Il n'y a plus de courant. C'est le noir partout. On allume les lumières que pour permettre à un avion d'atterrir. Mais maintenant, après le tremblement de terre, c'est sûr que cet aéroport a été touché. Donc les pistes sont en très mauvais état. Ces derniers jours, j'ai entendu un correspondant dire qu'il était pratiquement impossible, qu'il est impossible pour tous les avions qui arrivent d'atterrir en même temps. Il y a plein d'avions qui tournoient dans le ciel de Port-au-Prince pour attendre l'occasion d'atterrir. Il y a des avions qui tournent comme ça pendant une heure, même deux heures pour espérer atterrir. Et comme c'est un pays isolé, c'est une île, l'île d'Hispaniola, qui est coupée en deux. Bien sûr, la moitié c'est Haïti, l'autre moitié c'est la République dominicaine. Même ceux qui sont allés en République dominicaine pour atterrir et faire rentrer rentrer par route, ça aussi c'est impossible parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pratiquement pas de route. Et le peu qu'il y avait, le peu d'infrastructures routières qu'il y avait, a été touché par ce terrible tremblement de terre. Donc voilà, nous allons marquer une pause musicale et au retour, on continue de vous parler de ces terribles événements et puis de vos dons, bien sûr. Il y a plein de Canadiens qui se sont montrés très très généreux. On a la Croix-Rouge canadienne a annoncé aujourd'hui avoir amassé pas loin de 18 millions de dollars qui va être multiplié par deux puisque le gouvernement canadien avait dit qu'il donnerait un dollar pour chaque dollar ramassé. Et ben c'est extraordinaire, c'est déjà 18 millions qui sont dans la cagnotte. On va vous en parler tout à l'heure. Il y a plein d'organismes haïtiens et autres, algériens aussi, qui s'occupent de ramasser et de collecter des fonds pour venir en aide au peuple haïtien.
مازال ديما في البال ما نسيتكش انا وما ننساكش انا طال الغياب بلاك قول انساني دنيا عدا بلا بيك يا نور عيالي باه ننساك انا عمرها ما كسرى
Alors voilà, nous sommes de retour. C'était Mohamed Lamine qui nous interprétait « Yadzaïr, ya Nouara ». Inch'Allah, « Jazaïruna l'Aziza tkoun kul wakt Nouara ». Alors, nous avons, je vous disais tout à l'heure, qu'on allait continuer de parler de, des tristes événements que vit le peuple haïtien. Et nous avons un appel. Nous allons commencer avec, j'espère que je ne vais pas me tromper de ligne, avec Abdelkader. Abdelkader, bonsoir. Allô ? Abdelkader, est-ce qu'il est là ? Non, il n'est pas là. C'est pas un problème. Alors, s'il est à l'écoute, qu'il nous rappelle. Rachid, bonsoir.
Bonsoir, Issa. C'est Rachid Boudjaran, c'est le président du regroupement des Asiens du Canada.
Oui, Rachid, on vous écoute.
Oui, j'appelle parce que nous, en tant qu'organisme, on est membre aussi de la Fédération des Canadiens musulmans. Puis on a décidé ces jours-ci de présenter nos condoléances au peuple haïtien. Et en même temps, on a appelé les mosquées puis la communauté musulmane de faire un lever de fonds au cours de la prière du vendredi, et ce qui a été fait, les imams, ils ont appelé la communauté à participer à ce lever de fonds, et puis c'est ça, c'est notre contribution en tant que communauté arabe et musulmane on voulait aider le peuple haïtien, et puis ça continue le lever de fonds, je veux dire, les gens qui veulent aider, je peux vous laisser notre site web, comme ça, s'ils veulent donner directement à la Croix-Rouge, ou alors s'ils veulent passer par nous, ça va nous faire plaisir de faire
de,
ça.
De servir de lien avec la...
C'est www.femuc.ca. Femuc, c'est FEMUC.ca.
FEMUC.ca.
Femuc.
La fédération...
La Fédération des Canadiens musulmans.
Ok, Monsieur Boudjaran.
Oui.
Une question. Cette levée de fonds, donc vous l'avez faite hier.
Hier, oui, pendant la prière du vendredi.
Et est-ce qu'on peut savoir dans combien de mosquées vous avez fait ça?
On a appelé à toutes les mosquées de Montréal. C'est sûr que il y a certains organismes musulmans qui sont membres de notre fédération, donc c'est sûr que c'était plus facile de les contacter en premier, mais c'est ouvert à toutes les mosquées de la communauté de la ville de Montréal. L'appel a été fait pour toutes les mosquées.
Ok, donc mais c'est une opération qui continue, ça ne s'arrête pas à la prière du vendredi.
Non, ça n'arrête pas, mais c'était le début, c'était une occasion pour appeler la communauté et de la sensibiliser. C'était juste un début pour ça.
Eh bien, très bien, Monsieur Rachid Boudjaran. Je rappelle que Monsieur Boudjaran est le président du regroupement des Algériens du Canada et qui travaille avec la Fédération des musulmans canadiens.
Des Canadiens musulmans.
Des Canadiens musulmans. Merci beaucoup, Monsieur Boudjaran, et bonne continuation.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci. Donc voilà, ça c'est un geste magnifique. C'est une association algérienne qui travaille avec une fédération des musulmans canadiens qui ont lancé donc une opération de collecte de fonds pour venir en aide à nos amis haïtiens. Cette opération a débuté hier vendredi à travers toutes les mosquées de Montréal, et ça continue. Donc vous pouvez, pour ceux et celles qui aimeraient passer par cette association, visiter le site de la Fédération
des
musulmans canadiens.
Et je pense que c'est très important que les associations communautaires prennent aussi ou participent à cet élan de solidarité, parce qu'ils peuvent jouer un rôle de relais, parce que les grandes comme le Croix-Rouge, il y a des fois des gens qui ne sont pas vraiment connectés, ils ne vont pas croire et tout ça. Donc ils peuvent jouer un rôle de relais.
Exactement,
entre,
exactement.
La Croix-Rouge
et puis de toutes les façons, cette fédération des Canadiens musulmans, le regroupement des Algériens du Canada, etc. L'argent qu'ils vont ramasser, je pense qu'ils vont être obligés de le donner à la Croix-Rouge. Donc, il n'y a aucun problème sur ce point-là. Notre numéro de téléphone, c'est le 495-1540. Tout à l'heure, un auditeur nous avait appelé. Il ne voulait pas passer en onde. Il nous avait justement... il voulait lancer un appel à l'intention de la communauté algérienne en particulier, de la communauté maghrébine en général, et de tous les auditeurs pour que les gens viennent en aide à à ce petit pays, l'un des plus pauvres au monde, qui vit une terrible catastrophe, un tremblement de terre qui a fait entre 100 et 200 000 morts. Il y a autour de 250 000 blessés, 1,5 million de sans-abri. C'est terrible, c'est insupportable. Rien qu'à voir les images. Ou à lire, sur, que ce soit sur Internet ou sur la presse, voir ce qui se passe dans ce pays, et c'est totalement insupportable. Donc votre aide est précieuse. N'hésitez pas à mettre la main à la poche pour venir en aide au peuple haïtien. Ce même auditeur, Abdelkader, nous a reproché de parler de football. Il m'a dit qu'il y avait des sujets beaucoup plus importants que ça. Ça, nous le savons, Abdelkader. Nous savons qu'il y a des sujets plus importants. Le football, on n'en parle pas tout le temps, on n'en parle pas tous les jours. Des fois, on les fleurs juste pour donner des résultats.
On ne parle pas toutes les années. Parce qu'on a passé 8 ans sans parler de football, parce que
exactement.
On était presque absent sur la scène africaine.
Exactement. Ouais. Et puis, la Coupe d'Afrique, c'est une fois tous les 2 ans. La Coupe du Monde, c'est une fois tous les 4 ans. Donc, s'il vous plaît, laissez-nous parler de football de temps en temps, surtout que notre pays est concerné. Notre pays qui a très très mal débuté cette phase finale de Coupe d'Afrique. Nous avons été battus par une toute petite équipe, le cendrillon de cette Coupe d'Afrique, le Malawi en l'occurrence. Beaucoup n'ont pas accepté cette défaite. C'est vrai que c'est dur, c'est difficile.
C'était un choc, Aïssa.
C'était un véritable choc.
Vraiment un véritable choc. Comment on a pu gérer les 90 minutes, parce que on a reçu le premier but, ça nous a rappelé un petit peu, moi ça m'a rappelé Rwanda. Je me suis dit, ils vont se rattraper.
Oui, l'erreur.
C'était une erreur. Bon, c'était exactement, exactement la même chose, parce que c'était un ballon qui a été dévié par un défenseur. Et là, le deuxième but, là, on gardait espoir. On s'attendait à la deuxième mi-temps qui est quand même un retour. Et on commence la deuxième mi-temps, on reçoit le troisième but. Là, c'était la douche froide. Je pense que tout le monde a perdu espoir à partir de ce moment.
Bon, c'est vrai que, d'ailleurs, même l'entraîneur national, Bassadel, l'avait prédit. Il nous avait dit, écoutez, je demande au peuple de ne pas s'attendre à un miracle.
Je pense qu'il n'a pas prédit ça, lui.
Enfin,
parce que 3-0 contre le Malawi, je pense que c'est difficile. Si. C'est trop.
Oui.
Parce que même personnellement, je suis d'accord sur le fait que quand même, il faut pas trop sévère avec surtout les jeunes qui ont permis aux peuples algériens d'avoir l'espoir dans une participation à la Coupe du Monde. Mais quand même, 3-0, c'était un grand choc. Parce qu'on aurait pu perdre 1-0, tu peux dire que tu peux faire un match nul avec une équipe faible, mais perdre 3-0, et ça je te dis que...
Non, mais c'est...
Les Algériens ont souffert pendant 3-4 jours, avant le match du Mali.
Ce qui était difficile, et difficile à accepter, à supporter, c'est le fait que ce soit contre une petite équipe, contre le Mali.
Malawi.
Le Malawi, pardon.
Quelqu'un m'a... J'ai écouté sur YouTube. Malawi, Égypte, non. Alors on a fait exprès.
C'est un jeu de mots, oui. Ouais. Alors, je disais que ce qui était difficile à accepter et à avaler, c'est le fait que ce soit un petit pays qui n'a pas une grande tradition footballistique, qui nous dame le pion comme ça, qui nous écrase pratiquement.
3-0.
Un score...
Mais ça, avant de prendre la pause publicitaire, je pense qu'il reste à peu près 4-5 minutes. Est-ce qu'on peut dire ce jour-là, est-ce que l'argument des conditions de chaleur sont suffisantes pour justifier la débâcle, si
on peut Non, dire. Non, justement. C'est ce que beaucoup de gens ont reproché à Sadan. Il y en a qui l'ont fait avant le match, qui savaient qu'on courait vers une catastrophe. Nous, par exemple, ici, on avait été traités de quoi ? De traîtres.
Ouais, de la nation.
Traîtres, oui. Juste parce qu'on avait soulevé certains doutes sur certaines choses qui se sont passées. Mais il y a eu beaucoup de critiques après le match, après la catastrophe, c'est-à-dire après la défaite, des entraîneurs, d'anciens joueurs, même des étrangers, des journalistes français, des footballeurs français, des entraîneurs français, des Algériens aussi, des entraîneurs d'anciens joueurs, etc. Ils ont tous relevé la même chose.
Et je pense qu'il faut mentionner une chose. Personne ne remet la compétence intrinsèque de Salah en tant qu'entraîneur. Mais je pense que les erreurs sont plutôt des fois au niveau de la gestion. À titre d'exemple, il y a quelqu'un qui a écrit un article, je pense que c'est des Z Foot, qui a fait une comparaison. Comment expliquer qu'on y va, on va en Coupe d'Afrique avec 23 joueurs qu'on doit utiliser parce qu'avec 7-6 matchs, tu seras obligé d'utiliser tout le monde et tu prends des joueurs blessés. Comment expliquer que l'équipe égyptienne, l'entraîneur Chahata, s'est permis de ne pas prendre Boutelika parce qu'il aurait pu penser à la finale et que durant le mois, moi je l'inscris.
Exactement.
À titre d'exemple, je pense que c'est des choses, on ne remet pas la question de la compétence de l'entraîneur, mais au niveau organisationnel, au niveau de l'organisation de l'effectif par exemple.
Non, de la compétence aussi.
Oui, bon,
parce que ça aussi, ça fait partie des compétences.
Et là, on s'étonne, il y a 3-4 joueurs qui peuvent même ne pas jouer, rien, on ne sait pas qui peut. Mais oui. Là, c'est un problème. Pourquoi mets un autre joueur, au moins, au cas où, tu peux le rentrer si tu as d'autres blessés.
On risque de se retrouver
avec 11 joueurs.
Avec peut-être 11 joueurs. Il y a déjà 2 joueurs qui se sont blessés lors du match contre Mali.
Les cartons jaunes qui vont, parce qu'Ibda, il a un carton jaune.
Bah oui.
S'il va avoir le deuxième,
Oui, oui, non, il y a plein de petits problèmes comme ça. Mais le problème, celui que tu viens de soulever, c'est lui le plus important. Sadam a pris avec lui des joueurs blessés. Il n'y a pas que Merni et Antar Yahya, il y a aussi Saifi. Saifi, il l'a fait jouer malgré le fait qu'il était blessé. Magni et Antar Yahya, c'est un peu plus difficile parce que leurs clubs sont derrière et ils font tout pour que leurs joueurs ne jouent pas en étant blessé. D'ailleurs, Antar Yahya a son médecin, le médecin du club, avec lui. De Bochum, il est avec lui.
Mais sur cette question, je pense que ça a été tranché puisque la FAF a fait intervenir la FIFA et le médecin de la FIFA a autorisé Antar Yahya à jouer en réalité.
Enfin, pas à jouer. Il lui a dit que tu es apte, c'est-à-dire
à
t'entraîner, à être parmi les 23, etc. Mais pas à jouer. Bon, bref, toujours est-il que parmi les erreurs que nous avons reprochées à Sadène, il y avait ce problème, le problème des joueurs blessés. On a eu la blessure contre le Mali de Bazaz, Bouaza aussi, apparemment, lui aussi, il est blessé. On risque de se retrouver à court de joueurs, et ça pourrait être un vrai problème pour notre équipe nationale. Maintenant, au-delà de ce problème de blessure, le problème que nous avons soulevé et qui s'est avéré un problème réel, c'était celui du lieu de préparation. Et ça aussi, pendant la préparation, c'est pas tout le monde qui a critiqué ce choix, mais il y en a qui l'ont fait à demi-mot. Mais après la débâcle contre le Malawi, c'est tout le monde qui est monté au créneau pour dénoncer justement le choix du Castellet dans la région de Toulon en France, un endroit où il a fait autour de 5 degrés pendant toute la durée du stage. Et Sadan, je suis désolé, mais il le savait. Sadan a toute une expérience derrière lui. Moi, je me rappelle qu'en 82, avant d'aller en Coupe du Monde, l'équipe nationale, Sadan était préparateur physique. Hein, parce que beaucoup disent que Sadan a qualifié l'équipe nationale en 82, ça c'est archi faux. Sadan n'a rien à voir avec la qualification de l'équipe nationale en 82. Il faisait partie d'un staff avec Rogov et Mohamed Maouch pour les deux derniers matchs seulement. Les deux derniers matchs contre le Nigeria à Lagos où on avait gagné par 2-0 et puis au retour à Constantine où on avait gagné par 2-1. Avant ça, Sadan n'était pas dans le staff. Avant ça, ce n'était ni Rogov, ni Sadan, ni Maouch. C'était Khalif et Raikov, pas Rogov, Raikov. C'est avec eux que l'Algérie avait gagné les deux premiers tours. Ils ont été liquidés. On a ramené Rogov, Maouch et Sadan. Et après la qualification,
on a ramené
Khalif, ouais. Mahiddin Khalif,
Makhloufi
et Abdelrahman Soukan, ouais. Et même Sadan, parce que Mohamed Maouch avait refusé, parce qu'on leur avait proposé de faire le voyage avec eux, avec la délégation en Espagne, etc. Rogov et Mohamed Maouch ont refusé, Sadan a accepté, il était parmi le staff comme préparateur physique. Et à cette époque-là, l'Algérie s'était déplacée en Espagne à Oviedo pour jouer 2 matchs contre l'équipe nationale universitaire espagnole et une sélection des Asturies de la région d'Oviedo. L'Algérie avait joué 2 matchs en Espagne.
De préparation.
De préparation.
Mais ça, la question des conditions, on peut dire climatiques ou même géographiques, revient souvent avec ça, parce qu'en 86, on parle l'histoire de l'altitude d'été aussi.
Ben, c'était lui aussi.
Non, c'était Saddam. Exactement, qui parlait des conditions de l'altitude au Mexique, posait un problème.
Qui est un véritable problème.
Oui, non, c'est un véritable problème, et ça se prépare, parce que même au niveau de l'athlétisme, quand tu vas faire le marathon de Mexico, c'est pas comme tu fais le marathon de New York, là. Les conditions de préparation, ça, c'est de base au niveau du sport que tu dois te préparer. Une préparation, je dirais, en Afrique du Sud aurait eu un double
bien sûr,
ça aurait permis de, en même temps, peut-être se préparer sur les terrains sur lesquels ils vont jouer. Ils sont accessibles au mois de janvier, décembre. Et en plus, c'est les mêmes conditions au Cap qu'à Luanda.
Et pour revenir à Rabah Saadane et à la Coupe du Monde de 86, c'était le même phénomène. Rabah Saadane était l'entraîneur de l'équipe nationale. Et c'était lui qui avait qualifié l'équipe nationale pour la Coupe du Monde 86. Et c'était lui qui avait décidé d'aller s'acclimater au Mexique. L'Algérie s'était déplacée au Mexique pour jouer deux matchs. Ils ont joué deux matchs contre le Mexique à Mexico, où on avait perdu par 2-0, et contre la Hongrie à Monterrey, où on avait perdu par 3-1. Donc, Saadane, qui faisait partie des deux staffs de 82 et de 86, savait en 2010 qu'il aurait fallu aller s'acclimater en Afrique. Il a refusé à le faire. Il a refusé de le faire. Et maintenant, il est en train d'insulter les journalistes algériens. Il est en train d'insulter les journalistes algériens et de les accuser d'antinationalistes, etc. Parce qu'ils ont dénoncé ça. Parce qu'ils ont dit pourquoi aller se préparer en France au lieu de l'Afrique. Il est en train de leur reprocher ça. Alors que moi je vais le dire, beaucoup de mauvaises langues ont accusé Saadane d'avoir opté pour la France comme lieu de préparation. Mais il y a des mauvaises langues, je ne sais pas si elles sont mauvaises ou pas. Moi, je ne le pense pas. On dit que Saadane a été obligé d'aller se préparer en France. Ce sont les joueurs pro, non professionnels, qui lui ont imposé cet endroit-là pour qu'il puisse aller passer les fêtes de fin d'année dans leur famille, parce qu'ils vivent, ils sont nés pratiquement tous en France, ils vivent en France, ils jouent en France ou quelque part en Europe, en Espagne, au Portugal, etc., etc. Laisse-moi finir ça. Et ce sont les joueurs qui lui ont imposé ça. Et la preuve, ce sont eux qui lui ont imposé ça. Il leur a dit, ok, il n'y a pas de problème, mais vous ne rentrez chez vous que le jeudi matin 31 décembre. Et tout le monde sait que c'est le mercredi que ces joueurs ont pris leurs affaires et qu'ils sont rentrés chez eux. Contre l'avis de Rabah Saadane. Il a été incapable de les retenir. Et sur les journaux algériens, justement, le buteur entre autres, et compétition, il y avait des articles où le journaliste disait que c'était triste à voir parce que le soir du dîner, du mercredi soir, les tables étaient affreusement vides. Il n'y avait personne, il n'y avait que Saadane, son staff avec quelques joueurs locaux. Tous les autres étaient rentrés chez eux. C'est pour ça que Saadane en veut aujourd'hui à ses journalistes. Il les dénonce et d'ailleurs il a décidé de s'entraîner à huis clos à cause d'eux.
Il faut mentionner qu'il y a eu une réaction des journalistes qui ont tourné le dos à la délégation algérienne à la sortie du stade suite à l'entraînement à huis clos.
C'était pour dénoncer le comportement de Saadane qui leur refusait l'accès au terrain d'entraînement. Ils ont tourné le dos à l'équipe nationale et apparemment il y a Raourawa et le ministre Diar qui ont intervenu pour calmer un peu les journalistes. Bon, je crois que nous allons marquer une pause publicitaire d'abord et musicale ensuite et on vous retrouve tout de suite après.
Le carrefour du taxi.ca, votre portail en matière de service à l'industrie du taxi, désire être avec vous tout au long de l'année 2010. Chez FinTaxi, l'emphase est mise sur vous. Nous savons que derrière chaque volant, il y a des gens. Pour 2010, le carrefour du taxi.ca et toute l'équipe de FinTaxi vous souhaitent
une bonne année!
Le 12 janvier dernier, un violent tremblement de terre a dévasté Haïti. En solidarité avec le peuple haïtien, Radio Centre-Ville présentera deux émissions spéciales samedi et dimanche. Samedi le 15 janvier dès 16h, l'équipe haïtienne de Radio Centre-Ville vous informera des tout derniers développements. Dimanche le 16 janvier tout au long de la journée, Radio Centre-Ville offrira ses ondes aux organismes impliqués dans l'opération humanitaire ici et à Haïti. C'est un rendez-vous samedi le 15 janvier et dimanche le 16 janvier. Radio Centre-Ville 102,5 89.3 FM. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Ça, c'était Hamedo. Et puis, j'aimerais revenir sur ces tristes événements que vit le peuple haïtien. Il y a la Maison d'Haïti qui offre un soutien psychologique. Je vous l'annonce parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui nous écoutent en attendant le début de leur émission préférée Tambour Battant tout à l'heure à minuit. Donc la Maison d'Haïti a mis en place une cellule d'aide psychologique pour la communauté haïtienne. Une permanence est assurée toutes les fins de semaine. Elle a commencé donc hier vendredi, elle continue jusqu'à dimanche, même jusqu'à lundi matin. Il y a même une possibilité de garderie. N'hésitez pas à y aller avec vos enfants. La Maison d'Haïti, à l'adresse, c'est le 8833 boulevard Saint-Michel, c'est au deuxième étage. 8833, 8833 boulevard Saint-Michel, c'est au huitième étage. Et puis pour revenir à...
Il y a aussi Issa, ceux qui ont gagné les cadeaux, donc on va les contacter cette semaine.
Oui, tout à l'heure j'ai parlé avec la maman du petit Mehdi qui s'inquiétait de ne pas avoir reçu son cadeau. Je vous rappelle que la semaine dernière on vous avait offert deux maillots et c'était Karim et Mehdi qui les avaient gagnés. On les a pas encore reçus, c'est un peu de notre faute, on devait aller les récupérer chez notre ami Jamal Remila, on l'a pas fait. Mais je vous promets que demain après-midi ce sera réglé. Donc demain en fin de journée je devrais vous appeler pour vous fixer rendez-vous quelque part à Montréal pour vous remettre vos cadeaux. Et puis pour revenir au tremblement de terre d'Haïti, on continue à sauver encore des vies humaines, des gens qui étaient bloqués dans les décombres. Aujourd'hui, des sauveteurs américains ont réussi à dégager une femme de 29 ans. Elle est étudiante. Elle était sous les décombres d'une université. Donc, comme quoi l'espoir fait vivre. Cette dame a tenu, quand il faut le dire, presque 5 jours, et elle a été sauvée et évacuée vers un lieu où elle pourrait être traitée et sauvée, pourquoi pas. Voilà, on revient
à la coupe d'Afrique. On rappelle que l'Algérie donc a perdu son premier match 3-0 et a pu gagner son deuxième match. Issa, un commentaire sur, on peut dire, la réaction d'un côté des joueurs et aussi du staff technique, puisqu'il y a eu beaucoup de changements, soit dans la composition ou dans le style de jeu.
Absolument, et surtout dans la tactique, puisque Rabah Saadane a décidé de faire jouer un arrière latéral de métier. Bon, il n'est pas, c'est pas un arrière latéral de métier. Laïfaoui est un arrière central de métier, et Rabah Saadane l'a préféré à Rahou. Laïfaoui a très très bien joué, il s'est très très bien défendu, il a été l'auteur même de quelques actions en contre-attaque, d'un tir très puissant de très loin qui a failli faire mouche, etc. Donc ce petit changement en défense, où on avait deux arrières latéraux, Laïfaoui à droite et Belhadj à gauche. Belhadj qui ne s'est pas beaucoup aventuré devant comme il avait l'habitude de le faire, et il a dû recevoir des instructions strictes. Il devait garder son poste. D'ailleurs, sur le plan défensif, Nadir Belhadj a joué son meilleur match depuis très longtemps en équipe nationale. Il a été excellent en défense et excellent dans la relance aussi. Nous avons aussi remarqué que Majid Bougra, notre Magic Bougra, n'a pas trop joué à l'aventure comme il avait l'habitude de le faire, avec ses montées, etc., ses dribbles sur l'aile droite,
etc. Une tentative, il a perdu
une ou deux fois, oui.
Qui voulait refaire le but qu'il avait marqué. Oui. Il a commencé à dribbler.
Mais il a tout de suite repris sa place. Il y a eu aussi l'entrée de Bezaz, qui s'est quand même pas mal tiré pour un joueur qui n'a pas joué depuis très longtemps. Et globalement, l'équipe a très bien réagi. Il faut dire que nous avons des joueurs de qualité, donc il suffisait à Rabah Saadane de les mettre en confiance et puis de changer de tactique et de nous enlever cette tactique avec laquelle il joue depuis 30 ans.
Matmour aussi, on peut dire le retour de Matmour après une disparition depuis le match de Rwanda.
Exactement.
Puisque les deux matchs de l'Égypte,
il a été pratiquement absent. Il est très très bien revenu. Quoi qu'il était très isolé devant. Et ça aussi, c'est un problème de Rabah Saadane. Il ne donne pas de
un commentaire sur Yebda.
Yebda prend sa place. Yebda, heureusement que le Mouchia est parti. Je dis heureusement, pas pour lui, pas pour le Mouchia. J'ai rien contre ce joueur. Mais sinon, s'il n'était pas parti, jamais Saadane n'aurait fait jouer Yebda. Il l'aurait jamais fait jouer. Il serait resté sur le banc de touche comme d'habitude. Heureusement que le Mouchia est parti. Rabah Saadane n'ayant plus d'autre choix que de le faire jouer, il a été pratiquement le meilleur sur le terrain, Yebda. Il a fait un match extraordinaire et j'espère qu'il va jouer au même niveau lundi matin contre l'Angola. Et justement, après cette superbe réaction de nos joueurs, de notre équipe nationale, certains d'entre eux ont fait des déclarations après le match. Ils étaient très heureux. Nous les écoutons. C'est parti dans quelques secondes.
يعني لما الظروف تاع المقابله كانت احسن خاصه الشوط الثاني لان في ظروف حسنه الفريق جاود بدنيا وخاصه جاوبنا في الميدان على كل الناس اللي ناقضونا على التحضير في كاستيري اليوم بينا ان عندنا فقط يومين ما بين المباراه الاولى والثانيه مالي كان عنده ثلاث ايام استرجاع للراحه وحنا كنا افضل ما منهم في الملعب حاجه ممتازه لان مسكنا تمام الكره القدم
تليبرينا كاع لي ماشي رانا كاع ليكيب اون سي ليبيري الحمد لله اون اتين شدينا اللور الحمد لله على فان اون سورتي غانيون سو سا لا بلو امبليز امبورطون
الفوز كان صعيب. لعبنا ضد فريق محترم عنده يلعبوا مليح الكرة، صعبوا لنا شوية المهمة، والحمد لله احنا كنا اخر منهم في فالونتي كما قلت لك في الحرارة، وهذاك هو الصعب.
الحمد لله على غاني. Voilà, on a montré que c'était un accident, là il n'y avait pas de chaleur. Et voilà, cette victoire est au peuple algérien et Tahia Jazayel, et c'est pas fini, Inch'Allah.
On a fait un bon match, on a été costaud, on a retrouvé nos vertus et puis nos qualités. Et voilà, ça a payé. Maintenant, Inch'Allah, il faut qu'on continue comme ça. Il reste encore un match pour espérer, Inch'Allah, un quart de finale. Mais tout est possible, maintenant on s'est relancé, donc c'était plus important à faire.
Ce soir, on est déçus, parce que véritablement, on voulait gagner ce match. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Maintenant, il faut effacer cette défaite et se reconcentrer sur le match du Malawi.
Après le premier match, on pensait que l'équipe allait continuer sur cette lancée. Malheureusement, on n'a pas su réagir comme il fallait aujourd'hui. Donc, c'est tout.
Alors voilà, c'était en premier, c'était Rabah Saadane, vous l'aurez reconnu grâce à sa voix très spéciale, très rock. Après lui, c'était Hellish. Ensuite, il y a eu Laifawi. Ensuite, Bougra. Et après, c'était Ziani. Et la dernière intervention, c'était celle du Malien Kanouté, qui parlait de son équipe. Alors,
globalement, et ça, il faut mentionner aussi que l'entrée des mondialistes dans cette CAN a été, disons, catastrophique.
Catastrophique, absolument.
C'est sûr qu'on peut pas peut-être, la nôtre était la plus catastrophique puisque si on voit avec qui on a joué, le score.
Exact. Oui.
Mais ça reste que, toutes
même les autres même équipes.
Le Cameroun a perdu, le Ghana a perdu contre la Côte d'Ivoire, Nigeria a perdu contre l'Égypte. Donc, on peut dire qu'on est quand même dans le même bateau que tout le monde.
On est dans le même bateau que tout le monde.
Ça permet de réconforter un petit peu.
C'est un réconfort, à condition de se rattraper, de pouvoir se rattraper, de se reprendre, et pour espérer bien sûr se qualifier. Les Algériens l'ont très bien fait, on a réussi à battre le Mali, qui n'est pas le premier venu. Le Mali est une excellente équipe aussi, qui renferme en son sein des joueurs de très grand niveau, comme Kanouté, comme Sissoko, comme Keita, comme Diarra du Real de Madrid, Keita qui joue au FC Barcelone, etc. Ce n'est pas le premier venu. Battre le Mali a été une chose, et battre l'Angola, ça va être une autre paire de manches, parce que il ne faut pas oublier que l'Angola joue chez lui, à Tom, à domicile, et c'est le pays organisateur. Il aura l'avantage du terrain, l'avantage du public, il aura pour lui 60 ou 70 000 supporters, ce qui n'est pas rien. Mais nos valeureux Fenech nous ont prouvé par le passé qu'ils étaient capables de damer le pion à n'importe quelle équipe, et même à l'extérieur. Et quand on joue comme ça à l'extérieur, quoique cette fois-ci c'est une phase finale, Rabah Saadane est un entraîneur qui a eu beaucoup de réussite. Parce que quand il s'agit de défendre, Rabah Saadane est très très fort. Mais malheureusement, en Coupe d'Afrique, là, il ne s'agit pas que de défendre seulement. Il faut jouer l'attaque. Il faut libérer ces joueurs. D'autant plus que nous avons les capacités, elles sont là. Les joueurs sont excellents. Ils sont tous très bons. Enfin, quand je dis tous...
Mais Aïssa, je veux quand même peut-être tout à l'heure, après avoir pris quelques appels, revenir avec toi, parce que moi, j'ai de la difficulté à voir est-ce que c'est seulement Saadane qui est la cause du fait que notre attaque ne marque pas, puisque c'est les défenseurs, ou peut-être qu'on a beaucoup plus de joueurs de milieu de terrain, et c'est une question de choix global des joueurs, on a beaucoup plus de joueurs de milieu de terrain, et on n'a presque pas d'attaquants.
Tu as entièrement raison, on en parle tout de suite après, on prend un appel, je crois que c'est Belkacem. Belkacem, bonsoir.
Oui, bonsoir Aïssa, bonsoir Lamine, bonsoir aux gens qui travaillent avec vous, Rano, je crois qu'il y a des gens dans l'ombre aussi, et sans oublier les auditrices et auditeurs, bonsoir à tout le monde. Mes sincères condoléances au peuple haïtien suite au malheur du séisme qui a frappé, qui a dévasté ce pays-là. C'est que je voudrais dire que si on donne des dons, il faut savoir à donner à des organismes crédibles, parce que il y a de l'arnaquage dans ces événements-là. Il y a des gens qui, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et espérons que toutes ces aides internationaux vont vraiment en nécessiter, puisqu'on voit des images frappantes, douloureuses, très sensibles. Donc, il faut aider ce peuple. Et je suis content de la solidarité internationale. J'espère que l'Algérie aussi fera le paquet, comme toutes les nations. Et je voudrais parler un peu du premier match d'Algérie dans cette Coupe d'Afrique.
Oui.
C'est que vous avez parlé des problèmes techniques et tout, mais il y a un problème d'organisation. Des fois, on n'apprend pas de nos erreurs. C'est que on a joué un match au lieu de faire le camp au sud de la France. Donc, vous savez, au sud de la France, il a fait plus froid qu'ici à Montréal. Donc, quand ils étaient là-bas, il y avait la chaleur, il y avait les problèmes. Et comment que la Fédération algérienne du football a accepté de jouer à l'heure, à 15 heures là-bas, heure locale de l'Angola.
C'est un très bon point, ça, Abdelkassem.
Hein?
C'est un très bon point que tu soulèves aussi.
Oui, c'est ça. Donc, on n'apprend pas à nos erreurs. C'est ça, tout le temps. Comme on a dit, il y a 24 ans, on n'a pas participé à des événements comme ça. Et on se permet à faire des erreurs pareilles. La fédération, l'entraîneur qui choisit un lieu qui n'est pas favorable, il y avait, je crois, Qatar, il y avait des pays où il y a la chaleur, l'humidité, qui pouvaient mieux faire le stage d'entraînement.
C'est vrai.
Donc, j'espère qu'ils ne vont pas faire des erreurs au futur et qu'ils apprennent de leurs erreurs. L'erreur est humaine et que le match décisif, Inch'Allah, il fera on a les Verts, les Fanec, pour que le Hlaoua dit que d'homme, Inch'Allah.
Inch'Allah, Abdelkassem.
Inch'Allah. Et bonne soirée, bonne écoute.
Merci beaucoup, Yatek Saha. Ça aussi, c'est un point important. Celui que vient de soulever Belkacem, l'heure où s'est joué le match, que ce soit Monsieur Raoua, le président de la fédération, ou Monsieur Rabah Saadane, l'entraîneur national, les deux savaient pertinemment où ils allaient jouer. Ils le savaient depuis longtemps.
Et
à quelle heure ils allaient jouer. Et Saadane, en soulevant le problème de la chaleur et de l'humidité, il savait pertinemment qu'à 15 heures, ce n'était pas une heure pour jouer. Pourquoi ne pas avoir fait de protestation auprès de la CAF? D'autant plus que c'est le seul match de cette Coupe d'Afrique qui s'est joué et qui va se jouer à cette heure-ci.
Ouais, ça s'explique par le fait qu'il
n'y aura plus, de match.
Oui, parce que ça s'explique par le fait que chaque groupe joue le même jour, vu qu'on est dans le groupe du match d'ouverture. Donc, il n'y avait plus de temps, parce que le match d'ouverture a été joué à 8 heures du soir.
Oui.
Donc, il a été joué le lendemain. Mais apparemment, la FAF avait demandé, suite au fait que le match du Togo qui devait jouer avec le Ghana n'avait pas eu lieu à 19 heures, elle avait demandé de jouer à cette heure-ci. Ouais. Mais il y avait le refus de la CAF. Mais c'était trop tard.
C'est pas une demande
qui a été faite.
Non, c'est une demande qu'il aurait fallu faire bien avant le début de cette compétition. Il aurait fallu refuser carrément de jouer. Et dire, c'est très simple, l'argument il est là, il est très très recevable. Pourquoi nous sommes la seule équipe à jouer à 15 heures.
Exactement.
Et contre qui? Contre un adversaire qui est un pays voisin, pratiquement.
Donc, il est habitué aux mêmes conditions.
Exactement. Ça aussi, c'est un des nombreux problèmes que...
Et ça, si on survole les autres groupes, il y a le premier groupe, il y a l'Angola aussi qui a gagné son deuxième match contre le Malawi 2-0.
2-0, oui.
Je pense que c'est un score logique par rapport au niveau des deux équipes.
C'est un score logique par rapport au niveau des deux équipes. Il est vrai, quoique moi, j'avais prédit la victoire du Malawi en pensant qu'ils allaient jouer au même niveau où ils l'avaient fait contre l'Algérie. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier que l'Angola bénéficie de l'avantage du terrain et du public. Et en plus, l'Angola n'avait fait que match nul lors du premier match. Donc, et eux aussi, ils devaient se reprendre pour essayer de gagner au moins contre le Malawi. Parce que je suis convaincu que les Angolais craignent énormément l'équipe algérienne.
Oui, ça c'est sûr.
Ils ont dû se dire, si on ne bat pas le Malawi, on risque de si on ne fait que match nul, on n'a pratiquement aucune chance de...
Parce que quelque part, je pense que, et le danger viendra de ça, c'est que les Angolais vont essayer de fermer le jeu pour essayer de chercher un nul avec l'Algérie. Parce que pourquoi prendre le risque d'ouvrir le jeu et de perdre le match quand eux, avec un point, ils seront le premier du groupe?
Oui, ils seront...
Sauf si Malawi gagne, ce qui est... peu probable.
Ce qui est très peu probable.
Exactement.
Mais en football, ce n'est jamais joué d'avance, Lamine.
Non, ça
se joue sur le terrain. Donc, d'ailleurs, même Saadin l'a dit. Il a dit, moi, je ne compte pas sur le Malawi, sur le Mali pour me qualifier. Je vais jouer ce match pour le gagner. Il faut espérer que ce soit vrai et qu'il le joue pour gagner, pour le gagner. Et il faut espérer aussi qu'il réussisse à le faire. Dans le groupe B, le groupe de tous les malheurs, le groupe où il y a le Congo, le Togo, qui a vécu les tristes événements qu'on sait. D'ailleurs, c'est hier que les deux membres de la délégation qui ont été assassinés ont été enterrés au Togo. Donc, dans ce groupe, c'est la Côte d'Ivoire qui est assuré de se qualifier au quart de finale, puisque dans ce groupe, il va y avoir deux pays qualifiés.
Au début, ça paraissait intéressant d'avoir que trois équipes, mais je pense que c'est très compliqué, parce que l'erreur dans ce groupe-là est très dangereuse pour la qualification.
Ben oui, parce que lors du premier match, il y a eu un match nul, je crois, entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, justement. Ils ont fait match nul 0-0. Okay.
Non, entre Burkina Faso et Côte d'Ivoire. C'est le premier match qui était Burkina Faso, ils ont pu
Non. Le Burkina Faso a joué un seul
contre la Côte d'Ivoire. C'était le premier match. Le deuxième match c'était Ghana contre Côte d'Ivoire.
Exactement.
Et Côte d'Ivoire a gagné 3-1 avec un deuxième but extraordinaire. C'était le centième but.
Oui, mais contre le Burkina Faso.
Non, contre Ghana. C'est que Côte d'Ivoire a joué ces deux matchs actuellement. Elle a joué le premier match, elle a fait un match nul.
Contre le Ghana 0-0.
Non, contre Burkina Faso 0-0, c'est ça.
Ah oui?
Oui, oui. Et le deuxième match, c'était contre Ghana.
Donc ils ont battu le Ghana hier
3-1.
Ok.
Donc ce qui ça donne, le Côte d'Ivoire est qualifié puisqu'ils ont actuellement 4 points.
Oui.
Le problème, c'est que si Burkina Faso, ils font juste un match nul, c'est eux qui passent puisque Ghana a perdu un match. Et le Burkina Faso, ils ont un point aujourd'hui. Ghana se retrouve dans une situation difficile parce que si les Burkinabés vont jouer comme ils ont joué contre Côte d'Ivoire avec 9 joueurs en défense,
ouais.
Je pense que Ghana aura de la difficulté à marquer. Quand on a vu la difficulté du Ghana à marquer un but en moins contre, ouais. Je pense que c'était un pénalty qui a été marqué à la fin du match.
Et en plus, c'est une très bonne équipe, l'équipe ghanéenne. Dans le groupe C maintenant, nos amis égyptiens ont d'ores et déjà réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Ils ont battu le Mozambique cet après-midi.
Oui.
Par 2-0.
2-0. Un deuxième but j'ai oublié son nom, c'est le nouveau joueur qui remplace Aboutelika en fin de compte.
C'est Jeddi,
quelque chose comme ça. Ouais. Et on voit le travail que Chahata a fait. Jeddo, c'est ça que Chahata a fait. Il a écarté des joueurs blessés. On parle d'Aboutelika.
Aboutelika, de Amr Zaki.
Amr Zaki.
Et de Mido.
Et de Mido, pour des raisons disciplinaires.
Oui.
Et là, il ramène des joueurs de
du cru, des joueurs qui jouent.
Je pense que c'est des joueurs escandaliens. Et là, c'est des joueurs. C'est le joueur qui a marqué deux buts.
Ouais, ils ont réussi deux matchs pleins et superbes. Hein, ouais.
Bien que moi, franchement, j'étais impressionné par la prestation de l'équipe du Mozambique. Et je comprends pourquoi la Tunisie n'a pas pu gagner.
Ah, oui, oui,
c'est vraiment
c'est une
impressionnant.
Très, très belle équipe.
Et ça, c'est une remarque générale. Cette année, moi, le Bénin, en tout cas, toutes les équipes africaines, c'est plus les équipes où
il m'a pas été récemment.
Non.
Ah, c'est fini. Le niveau est pratiquement le même un peu partout. Il y a des équipes dont on n'entendait même pas parler il y a quelques années et qui sont maintenant qualifiés à des phases finales de coupe d'Afrique, comme le Mozambique, le Burkina Faso, c'est le Malawi, et c'est quand même extraordinaire. Dans le dernier groupe, le groupe D maintenant.
La Tunisie.
Oui, le groupe de la Tunisie.
Ça, c'est compliqué.
C'est très compliqué. Avec la présence de la Zambie, du Gabon et du Cameroun.
Cameroun qui perd son premier match, donc il va faire... Il est connu par ça. C'est qu'actuellement, on va avoir une équipe qui va gagner les deux matchs.
Exactement.
Ils l'ont fait au niveau de la qualification, puisque jusqu'à la deuxième, troisième journée, ils étaient derniers.
Oui, exactement.
Et là, quand il fallait gagner, ils gagnent. Donc, ça va mettre. Je pense que nos voisins, les Tunisiens, se sont mis en difficulté en perdant le premier match contre la.
Non, ils l'ont pas. Ils ont fait un match nul.
En faisant un match nul.
Un but partout contre la Zambie.
Il fallait gagner ce match, je pense, pour se qualifier.
Mais attention, la Zambie est une excellente équipe.
Non, je suis d'accord, mais il fallait gagner ce match parce que c'est pas contre le Cameroun.
Et risque d'avoir
c'est
des problèmes.
C'est pas contre le Cameroun qui vont gagner le match.
Non, mais attention aussi, il y a un autre phénomène aussi. Les grandes équipes, quand elles se rencontrent entre elles, tu ne peux pas dire que le Cameroun est meilleur que la Tunisie.
Mais il y a un phénomène qui est presque depuis trois décennies. Le Cameroun, c'est pas possible qu'il fasse pas le premier tour. C'est comme si la machine va fonctionner d'une façon très spéciale. Et moi, je suis convaincu qu'ils vont gagner demain leur match contre la Zambie et ils vont gagner leur match contre la Tunisie. Ça va être très difficile de gagner le Cameroun. Éliminer le Cameroun au premier tour de Coupe d'Afrique, je pense que ce n'est pas arrivé depuis très 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 longtemps.
Oui, et justement, l'entraîneur de la Zambie, M. Renard, a dit que son équipe, la Zambie, allait vendre très chèrement sa peau contre le Cameroun. Il faut dire qu'au sein de cette équipe camerounaise, il y a une armada de joueurs talentueux comme les frères Song, Robert et Dimitri. Il y a aussi Jean Macoun, il y a Jérémy, il y a Eto, et puis le gardien de l'Espagnol de Barcelone, Kameni. Avec tous ces joueurs, je pense que le Cameroun devrait se ressaisir demain dimanche justement contre la Zambie s'ils veulent bien sûr garder un espoir de qualification pour les quarts de finale, tout comme nos amis tunisiens devant le Gabon.
Ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils
demain à 11h heure de Montréal.
C'est le premier match donc à 11h.
Il faut rappeler que la Tunisie a été tenue en échec par la Zambie donc lors du premier match et qu'elle n'a plus le droit à l'erreur. Cette équipe tunisienne a largement les moyens de battre le Gabon avec une équipe qui renferme en son sein Chouqi Ben Saada, Amin Charmiti, Zohair Douadi et Issam Djemaa. Je pense que les Tunisiens sont capables de gagner ce match et de garder espoir de se qualifier pour les quarts de finale. Nous allons faire une autre pause musicale, publicitaire d'abord et musicale ensuite, et on se retrouve tout de suite après.
Le carrefour du taxi.ca, votre portail en matière de services à l'industrie du taxi, désire être avec vous tout au long de l'année 2010. Chez FinTaxi, l'emphase est mise sur vous. Nous savons que derrière chaque volant, il y a des gens. Pour 2010, le carrefour du taxi.ca et toute l'équipe de FinTaxi vous souhaite
une bonne année!
Pour la Alors, notre numéro de téléphone, c'est le 495-1540, si vous avez quelque chose à dire sur un événement de votre choix, football, politique, tristes événements comme ceux qui ont frappé Haïti. C'est à vous de choisir. 495-1540, et nous avons Mohamed. Mohamed, bonsoir.
Bonsoir, salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Aïssa, Lamine. Et bonsoir aux éditeurs. Avant tout, je veux dire que mes condoléances au peuple haïtien.
Oui.
Malheureusement, ils sont tombés c'est-à-dire que dans un mauvais moment à la Koulihal. Mais je vais parler un petit peu sur le football.
Oui,
justement, à propos de Malawi et l'Algérie.
Oui.
C'est-à-dire que moi je ne connaissais pas bien Saadane Ala Koulihal, mais c'est-à-dire que j'ai visionné le match entre Malawi et l'Algérie. C'est-à-dire que Hnaya, ça veut dire avant tout, moi je vais condamner avant tout, c'est Chaouchi qui a tout basculé le match. C'est à cause de lui, c'est-à-dire les deux buts, etc. Plus avant tout, Hnaya, on a des défenseurs bien. Le milieu, on a trop de milieux défensifs. Mais à propos de l'attaque, c'est la vivacité, la mise à part de Ziyani, qui est un milieu offensif. Hein.
Oui.
Pourquoi notre attaque est un peu lourde? C'est-à-dire, selon le gabarit, les Algériens, en général, le gabarit, ça compte. Surtout pour dynamiser l'attaque. On n'a pas. On a que des... Nous sommes forts sur les balles arrêtées, ça.
Ouais.
Mais à propos de l'attaque, ça nous manque beaucoup.
Exactement.
C'est au moins interdroite qui peut faire basculer, c'est-à-dire la défense de l'adverse.
Ouais.
Mais malheureusement, on n'a pas ça. On a ce que je vois, si je ne me trompe pas, qu'il a fait 3-5-2. Moi, je connais, c'est-à-dire que je vois que Saden, il joue sur la défensive, en général.
Beaucoup.
Beaucoup, beaucoup même.
Oui.
C'est pour ça que ça veut dire que moi, ça veut dire personnellement, ça veut dire que moi, je ne suis pas satisfait avec le jeu d'attaque. Hein. Défense, en ne parlant pas, je suis c'est hyper bien. Mais question d'attaque, ça, il faut qu'un milieu de inter-droit, inter-gauche. On n'a pas ces joueurs.
Oui. Les ailiers.
Et des ailiers de métier aussi.
Des ailiers de métier, excellent.
On les a pas.
Donc, ce que je pense que, à propos de. C'est-à-dire Angola, c'est-à-dire je peux dire que le match est à 60% côté des Algériens avec le professionnalisme qu'on a. C'est-à-dire les professionnels, ils ont cette, malgré que 80 ou 100 000, ils ont démontré ça l'Égypte. Moi, je veux vous dire quelque chose, je n'ai jamais vu équipe algérienne. Depuis 82, je ne connaissais rien du tout à propos de ça. Ma coach n'a fait jouer. Je n'ai jamais mis la Coupe du Monde à l'âge de ni 82 ni 86. C'est la première fois de ma vie de tout l'étiquette à l'Égypte. Ma coach n'a rien vu. Je n'ai rien vu. Déjà, Algérie, l'Égypte. C'est la première fois que je t'ai. Je ne pouvais pas même pas regarder les matchs tellement peut-être à fond de la crise cardiaque. En tout cas, pour l'Angola, je peux vous dire, mes propres expériences terrestres, on peut faire quelque chose avec l'Angola. Ça veut dire que le match va être à notre portée. Je pense qu'il va à notre portée. J'ai vu le match dans l'Angola, ils ne sont pas assez efficaces, surtout flacasse. Donc, d'accord, le jeu collectif, il est très, très, très bien. Mais pour ça veut dire, la défense aussi, elle est faible. Elle est faible, pas assez fort par rapport à la jeu. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir, ça veut dire, une sensation d'avoir peur qu'ils vont nous gagner. Je suis sûr qu'à 70%, je peux vous dire qu'on va être qualifié. Surtout, l'Égypte a le quart de finale, vraiment, je ne sais pas.
Mais le problème, Mohamed.
Mohamed, yatek saha. Yatek saha, bislama. Alors, on prend un autre appel. C'est Chérif. Chérif, bonsoir.
Bonsoir, Issa. Bonsoir, Lamine.
Bonsoir, Chérif.
Bonsoir, votre équipe.
Bonsoir, Chérif. Chérif qui nous appelle de Floride, des États-Unis.
Exactement, c'est là où j'habite.
Où apparemment il fait plus froid qu'à Montréal.
On a eu des petits problèmes avec les vergers, les oranges sont un peu...
Et on a commencé à sentir ça par le prix des, par le prix des oranges.
C'est tout ce qu'il y a eu comme problème, les oranges, c'est tout. Le batata kain, le psal kain, le tomate kain, le sport kain, le couscous kain, il y a tout.
Ça,
il
n'y
a pas de problème.
Chérif, apparemment, c'est le Canada qui va souffrir de ça. On ne va pas recevoir d'agrumes cette année de chez vous.
C'est de la magouille. Tu sais, aux États-Unis, 37% de l'agriculture, les produits agricoles sont jetés aux ordures.
Ah oui.
Alors, ils veulent garder les prix élevés.
Eh oui.
Alors il raconte toutes sortes d'histoires qui mettent l'essence, le prix de l'essence a monté à presque 4 $. Alors maintenant les légumes, le loyer, l'électricité, tout ça, ils mettent tout ça sur le dos du prix de l'essence qui a augmenté. Alors ils augmentent tous les prix. C'est toute la magouille l'économie d'ailleurs. C'est pas, y a rien réellement de l'offre et la demande, c'est tout du bidon.
Ouais, ouais.
Alors je voulais juste, il y a deux points que je voulais souligner. J'aimerais que les Algériens à l'écoute, même peut-être les Canadiens, prennent en note que Haïti, d'abord je veux parler d'Haïti, je voulais présenter toutes mes sincères condoléances à tous les Haïtiens qui se trouvent sur la planète. C'est une histoire qui est très triste. Il y a un peu la main de la France là-dedans qui, en 1791, n'a pas voulu leur donner l'indépendance. Les Haïtiens, ils ont eu un émir Abdelkader qui m'a fait le bled. Il s'appelle Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, il a pris les armes pour mettre la France à la porte. Et c'est le premier gouverneur de Haïti. Malheureusement, il a terminé comme l'émir Abdelkader. Alors, il faut que les Algériens se souviennent de nos frères haïtiens, surtout de monsieur du gouverneur Toussaint Louverture, qui a lutté, qui a montré à toute l'Afrique comment devenir indépendant. C'est Haïti, le premier pays des esclaves, qui a su combattre à plusieurs reprises l'armée française. Il a mis l'armée française en déroute, qui m'a donné un neuf le bled. Et ce que je veux parler maintenant, le deuxième point, c'est l'équipe algérienne,
oui,
avec la CAN. C'est-à-dire qu'ils vont gagner, ils vont avoir la coupe. Alors la coupe, elle est dans la poche pour l'Algérie.
Eh oh, bel baraka.
Bel baraka. Tout bel baraka, Sidi.
Ça, c'est une bonne nouvelle, chef.
Ils vont gagner, ils vont gagner la coupe. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que la Guinée, ils ont tous la diarrhée.
بصحتي شريف بالك حنا ما فهمناش فتونون بالك ما كاين فتونون كان سيدي والي راح يزوره
والله انا العائله نتاعي كاع قلت لهم روحوا لغليزان عند سيدي عبد وصلوا على ليكيب الجيريان
فكرتني في واحد الغنيه شريف فكرتني ويما وسيدي عبد ياما وسيدي عبد
Alors la victoire elle est dans la poche, قول لهم كاع.
Eh ben inchallah.
Gars, les gens se moquent, قول لهم c'est pas la peine de vous inquiéter, ne faites pas du stress et ne prenez pas de Valium.
Eh ben inchallah.
Ay assalamu alaykoum.
Merci beaucoup Chérif.
Merci.
Bislama. Alors ça c'était le shérif de la Floride. Maintenant c'est un autre shérif, je suppose qu'il est de Montréal lui. Shérif, bonsoir.
Salam alaykoum.
Wa alaykoum salam.
Saha Aïssa, salam alaykoum, amen à tous les auditeurs.
Ahlam.
Moi, effectivement, je suis de Montréal, ça fait un bout de temps que je n'ai pas intervenu. J'ai intervenu, si vous vous rappelez, le jour des ans de la défaite, le premier match de l'Algérie contre l'Égypte au Caire. Et là, j'étais un peu sérieux, si vous vous rappelez, de la stratégie de jeu qui a été adoptée par Sadan. Et de là, si vous vous rappelez, j'ai un peu partagé votre avis lorsqu'on parlait des gens de mauvais choix de la stratégie. Et on a vu carrément, lorsque cette stratégie a été changée lors d'un match de Khartoum, on a eu la victoire. Premièrement, effectivement, je saisis l'occasion pour présenter nos sincères condoléances à nos amis haïtiens, ici à Montréal et dans tout le monde, pour les tristes, disons, nouvelles-là, avec ce macabre, ce terrible, disons, tremblement de terre qui a ravagé carrément tout là, ici. Ouais. C'est vrai, on a suivi ce qui se passe à travers, surtout à travers les envoyés spéciaux sur les chaînes canadiennes. Vraiment, c'est vraiment triste et c'est dramatique. Donc, on est solidaires avec eux et j'espère qu'ils vont surpasser, comme ils l'ont fait, de toute façon, à nos coutumiers, les ancêtres, dans des cas avec, Inch'Allah, avec, j'allais dire, succès. Revenons au match de, disons, le dernier match contre l'Angola, celui d'équipe nationale. Vous m'entendez là?
Oui, très bien.
Ok. Bon, c'est vrai que c'est pas pour dire qu'on est. Des fois, lorsqu'on se présente, disons, pour émettre un avis ou un point de vue, même si on est contre quelqu'un, peut-être que les gens, je sais pas, ils prennent ça comme étant que c'est des attaques personnelles. J'ai suivi la semaine passée les débats et l'intervention de certains de nos compatriotes. Et j'ai voulu vraiment intervenir par la suite. Je me disais peut-être, je vais peut-être jeter de l'huile sur le feu. Je me suis abstenu, je me suis juste contenté d'écouter, disons, les interventions. Mais ça m'a fait mal au cœur, disons, d'entendre peut-être des interventions où on remet en cause, disons, l'intégrité des gens. On y est arrivé à même à dire n'importe quoi, traiter les gens de trahison, de ceci, parce qu'on n'aime pas cette personne. Il ne faut pas oublier une chose. Cette équipe nationale, c'est l'équipe de tous les Algériens. Ce n'est, pas là, ce n'est pas un bien de Sadan ou de Walawa ou de Bouteflika ou de quiconque. C'est notre équipe nationale. Elle représente tout le peuple algérien. Ça fait effectivement des années qu'on n'a pas eu la chance de ne pas participer au phase finale de la Coupe d'Afrique. Il y avait des raisons. Parmi ces raisons, c'est la mauvaise gestion du football algérien. On le sait bien. Malheureusement, il faut le dire, malheureusement, ça continue toujours. On voyait à travers la préparation de l'équipe, il faut dire, c'est une réalité, les préparations faites en France, donc ils étaient, comment dirais-je, donnés un peu d'euros à M. Sarkozy, là, un pays où les conditions sont, j'allais dire, adéquates pour une préparation pour un événement qui se déroule en Afrique. Ça, c'est des erreurs. Prendre des joueurs blessés et en risque de se retrouver au cours du jour, c'est notre erreur grave. Des fois, les gens ils disent que Rawarawa, il l'a fait à ceci, mais il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il, par exemple, c'est pas aussi blâmer juste des entraîneurs en tant que tel, je m'imagine qu'il est tout un staff qui lie, je l'espère aussi, toute une organisation derrière cette équipe nationale. J'espère juste que ce n'est pas les joueurs qui dictent leur volonté. Ce n'est pas les joueurs qui disent à Rab Saden ou à quiconque de faire quoi que ce soit.
Normalement.
Je m'imagine que c'est Rab Saden, c'est le premier patron de l'équipe. Effectivement, j'ai entendu dire, et on a lu à travers la presse, mais c'est une réalité aussi, que les conditions dans lesquelles le stage de Toulon
s'est déroulé, oui.
Où ils ont, disons, fait leur campement en guise de préparation de cette compétition finale de la Coupe d'Afrique, il faut dire que c'était juste, c'était plus peut-être de tourisme. Il n'y avait pas un match préparatoire en tant que tel.
Okay.
Il y avait de la mauvaise programmation. On a peut-être donné plus au plaisir aux joueurs pour se regrouper en France, alors qu'on avait des choix multiples et des choix qui devaient s'imposer d'eux-mêmes en tant que technicien. C'est pas parce que c'est moi ou toi ou quelqu'un d'autre.
Oui, bien sûr.
Ils ont dit peut-être, pourquoi pas choisir peut-être l'Afrique du Sud. Ils ont eu de l'expérience parce qu'ils ont préparé le match de la Zambie là-bas. En plus, comme il vient de le signaler, de souligner aussi Lamine, effectivement, ça devrait avoir double bénéfice, parce qu'on n'oublie pas que c'est d'ici 2-3-4 mois, on va aborder la Coupe du Monde. Ah, donc, oui. Ça va nous donner un avantage de connaître les terrains et de se métamorphoser aussi, de s'adapter avec le climat de Sud-Afrique. Donc, ça, c'est des erreurs. L'autre erreur, effectivement, ce qui m'a un peu intrigué, qui laisse toujours des doutes envers, j'allais dire, l'honnêteté aussi, il faut le dire aussi, l'honnêteté des responsables de la CAF. Pourquoi uniquement l'Algérie qui joue le match à 14h ouais. moins quart ouais. Là, à 15h moins quart. Pourquoi c'est juste l'Algérie? Quels que soient les prétextes, c'est anormal. En plus de ça, il n'y a aucune réaction de la part de nos responsables.
Exactement. Chérif, excuse-moi.
À la fin, ils ont intervenu parce qu'effectivement, il y avait l'annulation de match Todoko et on voulait, disons, ajuster ça. Mais, comme vous l'avez signalé, effectivement, vous m'avez devancé, disons, sur le point, il fallait intervenir à l'avance. Le jour où le tirage a été fait et le programme a été présenté officiellement,
exactement.
On a dû intervenir.
Chérif, excuse-moi. Au-delà de tous ces problèmes que vous venez de soulever,
oui.
Est-ce que quand même l'optimisme est de rigueur pour ce dernier match contre l'Angola?
Ah oui. Autrement dit, pourquoi on se rend, disons, à jouer? C'est sûr et certain qu'on va connaître, j'allais dire que c'est, disons, le deuxième test pour cette équipe. On va connaître le même parcours qu'on a connu avec l'Égypte. Le premier match, c'est vrai, c'était un désastre, c'est une humiliation, 3-0, et j'espère qu'on va en tirer les leçons. Parce qu'effectivement, comme vient de le souligner l'un de nos des auditeurs qui est intervenu avant moi,
ouais.
l'erreur, je dirais, à 80%, c'est la responsabilité du gardien de but. On avait deux buts, c'est-à-dire malgré bon, la responsabilité, j'allais dire, de tout le monde, mais à des degrés. Monsieur Chaouchi, il a une grosse part de responsabilité dans cette défaite-là. J'espère que les gens maintenant, tout le monde, disons, mettre, comment dirais-je, les pieds sur terre, essayer, comment dirais-je, d'aborder le match d'Angola avec certains rigueurs.
Et le Gandhi.
C'est vrai qu'on a constaté contre
Chérif, merci beaucoup. Chérif.
Oui, je pense que... C'est parti. Aïssa, donc, on arrive presque à la fin de l'émission. Quelques informations, Aïssa, que j'ai pu avoir à travers le net tout de suite sur un des sites du football algérien. Apparemment, Matmour est aussi blessé. Il est incertain. C'est sûr que Bzez ne va pas jouer, ça c'est sûr. LFR Saïfé aussi. Mais par contre, il y a aussi Matmour qui risque de ne pas jouer.
Et même Bouazza est apparemment blessé.
Apparemment, non, il s'est entraîné. Il y a eu même un entraînement spécifique avec Razel. C'est ce qui a été écrit sur DZFoot. D'autre part, il y a Merni et Antalyahia qui sont OK, d'après les entraînements.
Beaucoup plus Antalyahia que
Merni. Parce que dans le passé, bon, à chaque entraînement, il avait mal. Apparemment, il s'est entraîné aujourd'hui sans aucun problème.
Eh ben, il faut espérer que
Merni, parce que je pense qu'il va apporter un côté offensif.
Si on perd un ou deux joueurs à cause de blessures, il faut espérer qu'on récupère
les autres
ceux
joueurs
qui sont blessés depuis le début pratiquement.
Mais quand même, il faut mentionner, pour Antalyahia, il n'a pas joué depuis le 18 novembre.
Donc il n'a pas joué depuis plus de deux mois.
Ouais. C'est quand même, s'il se reprend... Ouais. C'est pas
non, ce serait une erreur de faire jouer Antalyahia. Ouais, une erreur. D'autant plus que l'Aïfaoui a très bien répondu et il s'est très bien acquitté de sa place.
Et Bouguera aussi au
Bouguera quand il prend sa place. Exactement, ouais. Exactement. Nous marquons une autre pause musicale et on vous retrouve tout de suite après.
I'm
Alors, voilà, avant de terminer l'émission de ce soir, nous avons avec nous M. Pierre-Michel Bolivar, l'animateur de l'émission Tambour Battant qui commence à partir de minuit, c'est-à-dire dans 5 minutes. Pierre-Michel Bolivar, bonsoir.
Dans une version, oui, bonsoir, dans une version très... très différente parce
très différente,
que vu les contingences du moment et les circonstances aussi, ce serait mal commode de jouer de la musique d'ambiance et de danse. On va jouer de la musique bien sûr, mais vous savez, c'est
de circonstances, on va dire.
C'est un peu, c'est terrible ce qui arrive. Et...
Justement, tout d'abord, j'aimerais vous présenter nos plus sincères condoléances, bien sûr, au peuple haïtien en général, de la part des deux émissions Montréal à Basse et Taxi Maghreb, de la communauté algérienne et de la communauté maghrébine en général. Est-ce que vous pouvez nous dire très brièvement, bien sûr, comment vous avez vécu d'abord l'annonce de ce tremblement de terre et ensuite les malheureux événements qui ont suivi?
Vous savez que je ne suis pas qu'à Radio Centre-Ville, donc je travaille, je fais, bon d'ailleurs je fais que de la radio. J'étais en onde à présenter une émission qui s'appelle l'Après-Midi Express quand la dépêche est tombée. Normalement, il y a généralement les auditeurs appellent parce que c'est ça, ce que j'aime à la radio. Des fois, vous ne nous voyez pas, mais si vous savez comment la cuisine se passe, c'est que des fois, l'auditeur appelle pour informer. Donc, on a reçu de nombreux appels de la part d'auditeurs et qui nous disaient qu'il y a une nouvelle qui vient d'être diffusée sur d'autres médias à l'effet qu'il y a un tremblement de terre qui a secoué Haïti. Mais aussi, vous savez que moi, je suis un professionnel et en tant que tel, je me disais, avant même de quitter les studios pour me rendre à la salle de presse et vérifier l'information sur les fils et tout, je me disais, généralement, il faut qu'on en prenne et qu'on en laisse. Parce que quand les auditeurs vous appellent, c'est bien d'avoir ce contact avec l'auditoire, mais c'est aussi bien aussi en tant que responsable, parce que c'est quand même dangereux, la radio, et c'est une arme redoutable, c'est une arme à double tranchant, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, ce microphone, si petit qu'il soit, il peut vous mater, il peut vous renverser, donc il faut faire attention. Donc on a voulu vérifier, parce qu'une information n'est pas une information s'il n'y a pas cette loi des 5W qui fait quoi, quand, comment et pourquoi. En dehors de cette loi des 5W, c'est des commérages, c'est des balivernes. Donc, on a voulu vérifier, j'ai été vérifié, et je me suis dit, bon, peut-être que c'est une petite... Après ça, tranquillement, la chose s'installe, on a pris... Alors je me suis... J'étais tout de suite devant un ordinateur, j'ai vérifié. Ah, j'ai vu... à la salle de presse qu'il y avait... on venait de rediffuser le flash, j'étais sur internet, oui, il y a un tremblement de terre, mais comme on n'avait aucune image, etc., on pensait que c'était un truc comme ça, et puis finalement, pour se rendre compte que c'était l'innommable, l'indicible, c'est une catastrophe époustouflante, et puis moi j'étais complètement sidéré, quand j'ai su d'abord que c'était à 7,5 sur l'échelle de Richter, qui en compte 9. Et généralement, les tremblements de terre qui passent ailleurs,
c'était toujours 7 ou 7,5 ?
7,0.
Okay.
Avant, on avait dit 7,3, mais 7,0. Avant, les autres tremblements de terre, c'est toujours 5, 6.
Mais Jean-Pierre, 6. Juste en saisir l'occasion de votre présence, vous êtes journaliste très actif au sein de la communauté haïtienne, vous connaissez la communauté, vous connaissez Haïti, donc vous connaissez l'ampleur des dégâts dans un contexte haïtien.
Ouais.
Je voudrais que vous dites un mot aux auditeurs, parce qu'il y a des tremblements de terre un peu partout, mais je pense cette fois-ci, Haïti a besoin de tout le monde, juste pour un petit peu montrer...
Ah oui, ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est l'hécatombe. C'est l'apocalypse, parce que vous êtes dans une ville, je vous fais une petite description rapide. Port-au-Prince, c'est une ville qui est, au départ, était construite pour quoi, 100, 150 000 personnes. Par après, la capitale a été agrandie, on est passé de 150 à 500 000, après 600 000, puis ça s'arrête là. Maintenant, il y a 3 millions de personnes qui vivent, ça veut dire que c'est 6 fois plus. Donc, dans un espace qui est fait pour... C'est comme si vous prenez Gaza, par exemple, c'est par mètre carré l'espace le plus petit au monde. Alors, ceci étant posé, et pour comprendre ce qui se passe là maintenant, c'est comme si vous vous levez un matin, et ce que je ne souhaite pas, et puis on rase une partie dans Montréal. Vous ne trouvez plus le stade olympique, vous ne trouvez plus la basilique Notre-Dame, vous ne trouvez plus le etc. Vous ne trouvez plus le boulevard métropolitain, n'est plus là.
D'eau potable de
oubliez ça. Avant c'était désuet, c'était des systèmes très très bancaux, la téléphonie traditionnelle, ça fonctionnait peut-être à 50%. L'eau potable n'était pas accessible à tout le monde. Alors maintenant vous imaginez, c'est l'hécatombe. Alors c'est une ville d'abord à refaire, c'est un pays à refaire. Il n'y a pas que Port-au-Prince, un peu dans le sud, par exemple à Léogane, à Jacmel qui est dans le sud-est. Une chance que dans le sud, parce que moi ma mère, elle est à 300 km de où est-ce que ça s'est passé, mais j'ai ma sœur qui est à Port-au-Prince dans l'œil de la bête avec ses enfants, son mari, on n'a aucune nouvelle. Et moi je ne suis pas un fataliste, je veux espérer, parce que tant qu'il y a la vie du temps il y a espoir, et je souhaite que c'est pas ce qui m'attend, mais et je suis obligé d'être là pour aider les gens, parce que j'ai reçu énormément d'appels, j'ai donné des tonnes d'entrevues à des médias, et je me suis rendu, j'ai peur de trois choses. D'abord, il faut dire à la communauté maghrébine, je sais que c'est une communauté qui sait très bien de quoi je parle. Vous avez été frappé aussi certaines fois dans des pays, chez vous, par des événements, des catastrophes naturelles comme ça. Moi, j'ai peur de trois choses. Et je l'ai dit dans toutes les entrevues, que ce soit à la presse, que ce soit dans les médias qui nous ont appelés à l'ouest du Canada, un peu partout. J'ai peur de trois choses. La première chose dont j'ai peur, et c'est important, c'est qu'après cinq jours, une semaine, on tire le rideau, on dit « ite missa est ». Comme on dit en latin, la messe est finie. C'est terminé, le rideau tombe, c'est fini, on ne parle plus de ça.
On parle d'autre chose, d'autres nouvelles.
Comme ça a toujours été le cas dans les événements passés. La deuxième chose dont j'ai peur, c'est les éléments corollaires des résultats de ce tremblement de terre. Parce que ça va laisser des traces indélébiles, ça c'est garanti. Éléments corollaires, je veux parler des morts, des blessés. Et les éléments corollaires de ça, c'est les épidémies, parce qu'il n'y aura pas d'eau potable, parce qu'il n'y aura
choléra,
pas... D'ailleurs, il y a à peu près 2 millions de personnes qui sont dans les rues, là, qui dorment à la belle étoile. Alors, la troisième chose dont j'ai peur, et ça, c'est la plus redoutable, c'est ce que je ne sais pas. Ce que je ne sais pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire le bilan. On a déjà enterré 45 000 personnes, là, dans des fosses communes. C'est-à-dire hier, les chiffres, c'était ça. 45 000. Avant, on disait peut-être 50 000 personnes en tout de décès. Mais moi, j'ai peur d'un bilan 6 fois plus lourd. On va aller peut-être dans les 200-300 000 personnes. Pour vous dire l'ampleur de la catastrophe. Parce que au moment où l'on se parle, il y a des gens qui sont encore sous les décombres, parce qu'il n'y a pas encore de machinerie lourde, parce que c'est des amas de béton.
Pour les dégager.
Vous voyez, il y a des symboles qui se sont effondrés. C'est comme si vous vous levez un matin, à ce que je ne souhaite pas, et que le stade olympique n'existe plus.
Pierre-Michel
et
Bourbon.
Comme l'a dit la gouverneure générale, c'est comme si on a largué une bombe.
Une bombe atomique. Pierre-Michel Bolivar, merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. On vous laisse aller à votre émission qui commence.
Alors, les gens qui veulent contribuer, qui veulent donner un coup de main, parce que ces choses-là, c'est des cadeaux empoisonnés mais passagers. Aujourd'hui, c'est Haïti, demain, ça peut être ailleurs. Donc, vous appelez le ceci, vous appelez la Croix-Rouge. Évitez les téléphones, les gens qui vous appellent au téléphone. Les appels privés, les gens qui vous appellent pour solliciter, les gens qui passent avec des petits cartons. Évitez ça. Allez voir la Croix-Rouge.
Et l'endroit le plus approprié.
Ceci, c'est des organismes reconnus. Il y a aussi des organismes comme Médecins du Monde. Il y a Architectes du Monde, parce qu'il va architectes d'urgence. Ont besoin de sous, parce que ces gens-là sont sur le terrain, ils ont des expertises. Alors, mais je vous recommande la
Maison d'Haïti.
La Maison d'Haïti, mais c'est surtout pour qui met en place une cellule d'aide psychologique, parce qu'il y a un traumatisme. Moi, ce qui m'a fait l'image, il y a deux images, enfin, j'ai vu une tonne d'images qui m'ont complètement arraché le cœur. C'est l'image d'un petit garçon que j'ai vu tout nu assis recroquevillé, complètement perdu là. C'est, ouais. Je crois qu'il a 9 ans, j'imagine 9 ans. Ouais. Moi je me dis, tu vas auprès de ce petit bonhomme là, tu lui demandes qu'est-ce que tu fais là, il va te répondre je ne sais pas.
Ouais.
Où est ta mère, je ne sais pas. Où est ton père, je ne sais pas.
Il y a aussi la fillette de 2 ou 3 ans qu'on a sortie.
Il y a une fillette, il y a une autre image qui m'a fait légèrement sourire. C'est d'un poupon de 13 semaines qu'on a retrouvé sous les décombres. Le monsieur, il l'avait dans un drap comme ça. 13 semaines, blessé à la tête. Vous imaginez? Et il a été soigné par un médecin, je crois, de CNN, etc. Et puis, l'autre image, c'est l'image des enfants. Si un enfant ne vous aime pas, il vous le dira carrément. Si un adulte ne vous aime pas, il va prétendre vous aimer et vous le fera payer très cher. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais que le monde soit rempli d'enfants. C'est ces enfants-là, des milliers d'orphelins, et les cadavres qui vont s'amonceler dans les rues, etc.
Qui s'amoncellent.
Quand on va commencer à utiliser la machinerie lourde, et je dis bravo, je ne regrette pas du tout d'avoir encouragé les gens à comprendre les élections américaines pour essayer d'appuyer Obama. Et je dis bravo à Barack Obama. Une chance qu'on ait un gars comme ça, la présidente des États-Unis. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner pour le futur, mais je sais qu'il a pris la chose en main. On sent qu'il est de tout cœur.
Lui et sa femme.
Ah oui, lui et sa femme. Parce que sa femme
pour la première fois
a enregistré
aussi,
un spot publicitaire pour la Croix-Rouge. Et après une heure de temps, le standard était complètement défoncé. Et arrivé hier, je pense qu'ils sont à 25 millions de dollars déjà. Alors, Barack Obama, qui a réussi un coup de maître à remettre George Bush sur la map pour un cas comme ça, à aligner Clinton, Bush, et lui, il était au milieu. J'ai trouvé que c'était une très belle image. Parce qu'il se préparait à le critiquer. Parce que vous savez que la droite aux États-Unis, vous avez entendu les déclarations de Rush Limbaugh, vous avez entendu les déclarations de Pat Robinson, ce malade, ce névrosé. Qui a fait des déclarations à un moment où est-ce que des enfants, des innocents se retrouvent sous les gravats, sous des amas de béton, de déclarer que les Haïtiens ont signé un pacte avec le diable.
Ouais.
Je suis désolé.
Ouais.
Alors, donc on a fait entrer ces gens-là qu'on a éliminé de faux argent. Alors, en gros, c'est ça. Donc, si les gens de la communauté maghrébine,
l'appel est lancé.
Est lancé. Si vous avez la possibilité de faire un don.
Et d'en parler autour de soi aussi.
D'en parler autour de vous. Si vous avez un ami haïtien, appelez-le. Parce que le plus dur là-dedans, moi j'ai des tribunes, j'ai la radio ici, je travaille à la radio ailleurs, et j'ai la possibilité d'évacuer mon stress. J'ai la possibilité de parler à du monde, j'ai parlé à des ministres.
Ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
J'ai parlé à des députés, je suis au courant de ce qui se passe. Je fais des entrevues, je rencontre des officiels, etc. Mais il y a des gens qui n'ont rien. Moi j'ai reçu des tonnes de téléphones, des gens en pleurs. Des gens qui sont complètement désemparés. Si vous avez un ami haïtien, appelez-le, parce que le plus dur, je vais vous dire ça aujourd'hui, le plus dur, c'est de ne pas pouvoir entrer en contact avec les proches. Parce que moi, il y a des gens qui m'ont parlé, j'ai reçu un coup de fil d'un ami qui me disait qu'il a perdu toute sa famille, il est seul au monde maintenant. J'ai un monsieur qui est venu à Radio CPAM, où est-ce que je travaille, il m'a dit, j'ai perdu 8 enfants. Il s'apprêtait à les faire rentrer ici.
C'est terrible.
C'est indicible. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe en Haïti au moment où on se parle là. Et on n'a pas encore regardé ce qui se passe dans les environs de Port-au-Prince. Parce que la plaque tectonique s'est déplacée. Ça passe de Carrefour à Pétionville. On n'a pas parlé de quoi? Des Bouquets, de Kinskoff.
Des régions isolées.
Ah oui, et tout le monde est focusé sur la capitale. Je vous disais tout à l'heure, Léogane, qui est une ville un peu au sud de Port-au-Prince, c'est dans la partie sud du pays de toute façon, c'est à peu près détruit à, mon Dieu, 80%.
80%.
Jacmel, ils ont 2 écoles se sont effondrées. C'est un terrain une piste d'atterrissage qui sert d'hôpital de fortune. Il y a à peu près 6-7 hôpitaux qui n'existent plus.
Qui n'existent plus.
Vous voyez le palais national. Il y a beaucoup d'églises qui se sont effondrées.
Le président Préval est dans un commissariat, dans un bureau.
Dans un commissariat. Il y a le Parlement, il y a quoi? Il y a 28 sénateurs, parce que la Chambre haute haïtienne, c'est ça, et je pense qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine qui sont sous les décombres.
Sous les décombres, qui n'ont pas encore été retrouvés.
Il y a 5 ministres du gouvernement quatre officiellement, le ministre du tourisme, le ministre la ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice, et quel autre ministre encore, en tout cas, il y en a quatre. La ministre des Affaires étrangères, c'est Monsieur Lawrence Cannon, le ministre des Affaires étrangères du Canada, avec qui j'étais en entrevue, qui me l'a confirmé. Pendant l'entrevue, j'étais complètement renversé quand il me l'a dit. Donc c'est énorme. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe en Haïti. C'est l'hécatombe.
Il faut espérer que les choses s'arrangent, que l'aide internationale arrive en masse. Et surtout...
Et j'ai envie de vous demander une chose avant que j'oublie.
Oui.
Quand vous avez des gens, vous avez des invités, il faut pousser l'idée d'un plan Marshall. Il faut pousser cette idée-là, parce qu'on l'a fait pour l'Europe. On pourrait bien aussi le faire pour Haïti. Haïti. Oui.
Et je dirais, moi franchement, j'ai honte d'être nord-américain quand je vois que Haïti fait partie de l'Amérique du Nord. Elle est attachée.
De l'Occident en plus.
De l'Occident.
On est à 90 minutes entre le décollage et l'atterrissage.
Exactement.
Du pays le plus puissant de la planète.
Ouais.
C'est inadmissible. Et si on retourne un peu dans l'histoire, on verra que les Haïtiens ont aidé à faire Savannah. Les Haïtiens, c'est parce que les Haïtiens étaient là aussi que les Américains ont pu acheter la Louisiane pour une bouchée de pain des mains des Français.
Ouais.
Donc, il y a beaucoup de choses. On a fait beaucoup de rétention de l'histoire d'Haïti.
Pierre-Michel Bolivar, merci beaucoup. Tu risques de te faire taper sur les doigts. Tu t'es oublié, il est 20...
Ouais.
Il est minuit 11 minutes.
On est ses invités depuis 10 minutes.
C'est ça.
Ouais.
C'est nous les invités. Papa. Donc,
alors voilà, c'est ça.
Bonne émission et puis bonne chance et bon courage surtout.
Merci infiniment.